La conférence que vous allez suivre a été enregistrée le jeudi 7 mars 2019 à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Son thème, Louise Michel, une femme d'exception, par Edith Lombardi de l'association Solidarité Femmes. Nous allons entendre sa première partie.
Un jour, baguenaudant un peu au milieu de contes, de mythes, comme ça, je me promenais, je cherchais, et je fais une rencontre tout à fait étonnante. Je rencontre des récits kanaks, des mythes, des contes, des récits kanaks, traduits par Louise Michel. Alors bien sûr, j'avais entendu parler de Louise Michel. C'était une grande figure de la Commune et une grande figure des courants anarchistes. Une des grandes figures des luttes ouvrières populaires du 19e siècle. Mais qu'elle ait appris le kanak quand elle a été déportée, qu'elle l'ait appris, qu'elle ait entendu ses récits et qu'elle les ait traduits, ça m'a tout à fait étonnée. Et ce n'est pas une traduction laborieuse, c'est une traduction inspirée, absolument magnifique, où j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment la langue d'une poète devant moi. Je vous en dis comme ça quelques lignes. Et c'est un récit qui parle d'un déluge. À peu près tous les peuples du monde ont des récits de déluge, des récits extrêmement variés, extrêmement différents les uns des autres. Et les peuples kanaks ont eux aussi des mythes de déluge. Païla, c'est une jeune mère qui a 2 enfants dans ses bras. Il y eut un jour où les montagnes noires se fendirent comme un coco sous la pierre. Devant Païla, le sol s'est fendu, comme si un coco immense y avait été poussé. Derrière elle, la montagne s'est déchirée. À droite et à gauche sont les abîmes. Et l'eau monte, monte toujours. Elle s'élève jusqu'aux nuages. Et les nuages lourds se réunissent à l'onde. Bientôt, les nuées et la mer se confondent, s'embrassent, se mêlent, l'eau montant en colonne, les nuées se versant par torrents. Que va-t-elle devenir, Païla la Brune? Sur sa tête est la grande pluie, sous ses pieds le lac monte, autour d'elle des gouffres sans fond. Elle prend ses 2 enfants dans ses bras, se ramassant sur eux, pour qu'ils ne sentent pas l'eau ni la chute. Je m'arrête là pour ce fragment de déluge qui m'a permis, en quelque sorte, d'arriver dans le paysage intérieur de Louise Michel, qui m'a donné envie de la connaître mieux, qui m'a donné envie, du coup, de la faire connaître. Et je suis très heureuse de profiter de l'occasion du 8 mars. On voudrait que ce soit tous les jours, hein, le 8 mars pour les femmes. Mais saisir cette occasion, ben voilà, pour parler d'elle comme je pourrais, tant bien que mal. Elle est si riche, sa personnalité et sa vie sont si grandes que bien sûr je n'en dirai que quelques aspects. Louise Michel, sa vie accompagne le 19e siècle. Elle est née en 1830, elle est morte en 1905, elle a vécu 75 ans, une longue vie. Elle a vécu en femme affranchie de tous les préjugés, en particulier les préjugés concernant les femmes. On a en ce moment des affiches à Besançon et dans la région qui nous disent « Courbet, un esprit libre ». Eh bien, j'ai titré cette conférence « Louise Michel, une femme d'exception », mais j'aurais pu tout à fait la titrer « Louise Michel, un esprit libre ». Tout à fait libre. Dégager des préjugés à un point qu'on ne peut concevoir. Elle était la seule, parmi tous les communards déportés, des gens qui étaient révoltés, des gens qui avaient souffert, qui s'étaient élevés contre l'oppression, qui avaient été condamnés à la déportation à vie. Eh bien, elle était pratiquement la seule à être capable de rencontrer les Kanaks, qui paraissaient être tout simplement des sauvages pour les Français, les Européens de l'époque. Alors, je vais commencer par sa naissance. Puis on va suivre comme ça le déroulé de sa vie. 1830, on est à la veille de la révolte des Canuts. 1831. Le capitalisme est en plein essor. Il n'a pas fini. Elle naît, petite fille, qui ne se rend pas compte que le château, elle est née dans un château, que le château dans lequel elle voit le jour, eh bien, est en pleine effervescence. C'est le tohu-bohu, c'est le scandale. Sa naissance n'est pas paisible. Sa naissance, c'est l'occasion d'énormes conflits au sein de la famille. Elle est la fille de la servante, Marianne Michel. Et le père n'est pas là. Le père, c'est très certainement le fils du châtelain, Laurent de Mailly. Et alors que la coutume, l'habitude, les bonnes mœurs veulent que quand une jeune servante, elle a 18-19 ans, quand une jeune servante se trouve enceinte suite à sa rencontre sexuelle avec le fils de la maison, la coutume veut que la servante est mise à la rue avec l'enfant, honteusement chassée. Et là, c'est pas ça qui se passe. C'est le fils qui s'en va, qui s'éloigne. Le fils qui, d'une certaine façon, est chassé par ses parents. Et ce sont les grands-parents de Mailly, le grand-père et la grand-mère, qui accueillent cette petite et qui l'élèvent avec amour. La jeune servante reste dans le château. Elle sera toujours servante, une jeune servante intelligente, douce, illettrée, comme le sont les servantes à l'époque. Et la petite Louise Michel, eh bien, elle va grandir là, entourée d'un fatras d'amour, j'ai envie de dire. Le grand-père lui donne son nom, de Mailly. Elle s'appelle Clémence Louise de Mailly Michel. Enfant bâtarde, pas de père, mais des grands-parents. Elle est en quelque sorte une enfant qui a une filiation trouée, qui a quelque chose qui n'est pas en place et pourtant que les grands-parents s'efforcent de réparer en lui faisant place, en lui donnant toute l'éducation qu'ils peuvent et en lui donnant leur nom. C'est Louise Michel. Elle nous parle de son père dans ses mémoires, puisqu'elle a beaucoup écrit, Louise Michel. Elle écrit de la poésie, elle écrit ses mémoires, elle a écrit sur la commune. C'est une jeune femme qui a aimé passionnément les livres et écrire. Et quand elle parle de ce père dans ses mémoires, elle le montre arrivant parfois au château, ne la regardant pas. Il fait un grand travail, un grand effort d'indifférence. Et faut y mettre du sien pour être indifférent à un enfant qui vous guette, qui vous suit, qui attend le moindre signe de vous, qui est là derrière la porte dès que vous arrivez, qui observe si vous n'allez pas lui adresser une caresse, un sourire, une question, dire comment ça va. Rien. Il passe, il ne la voit pas. Quel travail il a fait ce garçon. Et puis dans ses mémoires, elle nous dit qu'avec le temps, il a fini par s'intéresser un peu à elle. Elle était tellement étonnante, cette gamine, tellement douée. Mais voilà, ils n'auront jamais de véritable lien. Il s'est peut-être un peu intéressé à elle à mesure qu'elle a grandi, mais il n'a pas pris de responsabilité par rapport à elle. Il ne l'a pas soignée, il n'a pas réfléchi à sa vie, il n'a pas protégé son existence. C'est toujours le grand-père, la grand-mère et sa mère qui ont pris soin d'elle. Lors d'un de ses procès, elle fera quantité de séjours en prison au cours de sa vie. Elle va passer quantité de fois devant des juges et des jurés. Au cours d'un de ses procès, le juge dit, oui, c'est une pauvresse qui a été élevée par charité par les deux Mailly. Et là, elle s'élève. Non, je n'ai pas été élevée par charité. J'ai été élevée par amour dans ceux qui étaient ma famille, mes parents. Alors, ce grand-père de Maï, on parle plus de lui que de sa femme, qui était pourtant une femme certainement très étonnante. Ce grand-père de Maï, ben voilà, il possédait le château de Vroncourt. C'était un intellectuel. Et c'était un républicain qui aimait lire Voltaire et qui plus tard va lui faire découvrir Molière, Victor Hugo, Lamennais peut-être. Voilà, c'est un intellectuel qui ouvre cette gamine à tous les textes que lui aime et que lui apprécie. Dans le désordre, comme ça vient, comme ça l'intéresse. Il n'a pas un programme d'éducation, hein. Ça vient comme ça vient. Alors il lui fait découvrir toutes sortes d'écrits, il lui fait découvrir la poésie. La grand-mère écrit de la poésie. La grand-mère lui apprend la musique et le dessin. Lui apprend à jouer du piano. Elle reçoit donc une très bonne éducation. Ça va lui servir toute sa vie. Toute sa vie, elle pourra gagner sa vie en donnant des leçons de dessin, des leçons de musique. Elle ne sera jamais en incapacité de gagner sa vie grâce à ce bagage. Un jour, quelqu'un de la famille vient et voit, c'est une tante côté de Maï, et voit que la grand-mère est en train de jouer du piano avec la petite. Elle lui dit, mais arrêtez ça. Vous êtes en train de lui donner une éducation alors qu'elle ne sera jamais qu'une pauvresse. Et ça, c'est arrivé quantité de fois dans la vie de la petite. Elle aura à subir un bon nombre d'humiliations parce qu'elle n'est pas à sa place, elle n'a pas sa place. Et puis parce que c'est une bâtarde. Elle a beau être aimée par les deux Maï, elle a beau recevoir une éducation très riche, ce n'est qu'une bâtarde et ça ne passe pas. C'est quelqu'un qui ne devrait pas vivre comme ça et qui est toujours marqué par la honte. Toujours marquée par la honte. Une dame âgée qu'elle aimait aller trouver dans le village, elle aimait se retrouver, se nicher dans ses bras. Et un jour, elle entend cette phrase complètement stupéfiante, à laquelle elle ne s'attendait pas. Cette vieille femme se penche sur elle et lui dit « Fillette, c'est pas là qu'est ta place. » Ta place au cimetière. Elle entend des choses comme ça. Ta place, elle n'est pas là. Elle entend aussi, si ton père, là, Laurent, il ne s'occupe pas de toi, c'est parce que tu n'es pas assez gentille. On la culpabilise aussi. Mais ce ne sont pas les grands-parents qui la culpabilisent, c'est l'entourage un peu éloigné. À part ça, ma foi, elle vit avec une liberté extraordinaire. On la laisse élever des chauves-souris, on la laisse courir dans les bois, elle déchire ses habits, c'est une vraie sauvageonne. Ça aussi, ça dérange beaucoup dans le village. Ce n'est pas une petite fille tranquille qui présente bien. Elle est toujours déchirée, elle est toujours hardie. Des chasseurs vont chasser les loups. Elle voit une louve, elle les suit. Elle voit une louve qui est coincée dans son terrier, elle se met devant. Elle demande aux chasseurs, elle supplie les chasseurs de laisser la louve vivante. Vous imaginez bien qu'ils l'ont écartée et qu'ils ont tué la louve sans s'attarder. Mais alors, ça fait scandale, elle est complètement incroyable. Elle soigne des animaux sauvages dont on n'a pas à s'occuper. Les crapauds qui sont des bêtes méprisables, que les gamins écrasent ou estropient, elle les sauve, elle les cache, elle les emmène dans le jardin de Vroncourt pour que les gamins ne leur fassent pas de mal. Elle est extrêmement sensible, elle est hypersensible à la souffrance des animaux. Elle est hypersensible à la souffrance des êtres humains. Quand passent des gens qui n'ont rien, qui ont faim, qui ont soif, qui dorment dehors sur des pierres, elle va ouvrir, casser les serrures de son grand-père. Elle chaparde de l'argent, de la nourriture. Elle laisse un petit mot en disant ce qu'elle a pris, pourquoi elle l'a pris. Elle va donner tout ça aux pauvres gens qui en ont besoin. Dès l'enfance, elle est comme ça. Dès l'enfance, la combattante, la solidaire qu'elle sera adulte, cette femme-là, elle est déjà présente, à la fois par sa sensibilité et à la fois sans doute parce que la souffrance, elle sait ce que c'est. Elle sait ce que c'est pour elle, du fait de ne pas avoir de père, du fait d'être une bâtarde et du fait d'avoir subi un bon nombre d'humiliations. C'est l'enfant, Louise Michel. Elle n'a pas de père. Eh bien, elle va s'en trouver un. Elle va se faire un père. Elle va se faire un père extrêmement idéalisé, très lointain, mais absolument merveilleux. Elle va faire de Victor Hugo son père spirituel. Elle a 14 ans, 15 ans, elle lui écrit. Elle lui écrit et il lui répond. C'est ça qu'il faut retenir d'extraordinaire, c'est qu'elle lui écrit des dizaines de pages avec une écriture en patte de mouche, extrêmement difficile à lire. Xavier Gautier, qui a travaillé sur l'ensemble des lettres qu'on peut encore trouver de Louise Michel, dit que c'est un travail d'une très grande aridité que de lire ces dizaines et ces dizaines de pages avec une écriture microscopique. Et à cet âge-là, elle n'a pas encore appris, elle ignore la ponctuation, pas de point, pas de virgule, pas de majuscule. C'est un travail énorme que de la lire. Elle écrit, elle se confie à ce père lointain. Elle lui dit toutes ses questions, ses souffrances, comment va être son avenir, et puis qu'elle a envie d'être poète, et puis elle lui envoie les poèmes qu'elle écrit. Je vais vous en dire un de ses poèmes. Vous allez voir, elle a 14-15 ans, et quel poème elle a écrit. Elle a 15 ans, il a été écrit en 1845. Je n'ai jamais franchi nos paisibles villages. Et cependant, mon front est avide d'orage. Seigneur, Seigneur mon Dieu, livre mon aile au vent. Ou bien, rends-moi semblable aux paisibles enfants que nulle voix n'appelle au soir dans les nuages. Je vais vous le relire. Je n'ai jamais franchi nos paisibles villages, et cependant mon front est avide de rage. Seigneur, Seigneur mon Dieu, livre mon aile au vent, ou bien rends-moi semblable aux paisibles enfants que nulle voix n'appelle au soir dans les nuages. Elle n'a jamais quitté son grand-père, sa grand-mère. Elle est là dans son village, et voilà comment elle rêve. Alors elle va à l'école, c'est une blagueuse, c'est une farceuse. Le maître, par exemple, dit, il était une fois trois petits poussins, Louise, tenez votre stylo droit, et puis elle et ceux des moulins, arrivez, chauffez-vous les pieds. Et il continue la dictée, et quand l'instit voit ce qu'elle a écrit, ben, elle a tout écrit. Ceux du moulin, venez vous réchauffer les pieds. Louise, tiens ton stylo, tiens ta plume, ne tiens pas ta plume comme un bâton. Alors, à la fois il est agacé, puis à la fois il a envie de rire, mais en même temps, il faut qu'elle arrête de faire ça, quoi. C'est une blagueuse. Et puis, quand arrivent les vacances, eh bien, il y a un cousin Michel, qui vient et qui passe les vacances d'été à Vroncourt. Et lui, il vient avec ses livres de classe, des livres de garçons. Elle découvre alors que les garçons ont un enseignement beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe que les filles. Les filles, on leur fait des maths très simples, très faciles, puis les garçons, on leur apprend l'algèbre, on leur apprend des choses complexes. Et alors, elle se précipite sur les livres de Jules, son cousin, elle apprend, elle dévore tout cet enseignement. Elle dit à son cousin, mais enfin, pourquoi nous, les filles, on nous donne des choses faibles, et puis que vous, les garçons, on vous donne un enseignement bien supérieur? Et il lui a dit, mais les filles, c'est comme ça, tu sais, les filles. Elle dit, mais non, c'est pas vrai, regarde, moi, ça me passionne. Il lui répond, oui, mais toi, tu es une anomalie. Elle sera toute sa vie, c'est aussi le début ça, de sa formation de femme en lutte, elle sera toute sa vie extrêmement sensible aux inégalités, et en particulier aux inégalités péjoratives qui sont faites à l'égard des femmes. Et pendant la Commune, une des premières lois de la Commune, ce sera l'égalité des salaires entre les institutrices et les instituteurs. Parce que non seulement les filles avaient un enseignement plus faible, il ne fallait pas leur fatiguer le cerveau, mais les institutrices avaient aussi un salaire plus faible. Ce sera aussi une des lois de la Commune, et je pense qu'elle y est pour quelque chose, que les enfants nés de pères inconnus ont absolument les mêmes droits en dignité, en égalité à tous égards, que les enfants nés dans des familles ordinaires. Ces deux lois seront abrogées par les Versaillais aussitôt après la fin de la Commune. Mais enfin, ces deux lois tout à fait importantes à retenir, et on peut être sûr que Louise Michel y est pour quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle avait bien compris. Elle reçoit une éducation religieuse par sa mère, qui sera toute sa vie croyante. À la fin de sa vie, quelques années avant sa mort, la mort de sa mère lui dit « Mais enfin, quand est-ce que tu vas arrêter de fréquenter tous ces brigands qui sont sans Dieu ni maître, qui t'emmènent dans des tas de manifestations où après tu te fais embêter? Arrête donc tout ça !» Pour le moment, c'est d'autres qui ont entraîné sa fille, c'est pas elle qui est meneuse. Donc elle a une éducation religieuse, et avec toute son ardeur, elle est croyante, elle prie, elle va à l'église. Et elle se demande, toute jeune, si elle ne pourrait pas devenir religieuse et consacrer complètement sa vie à la fois aux pauvres et à Dieu. Et puis tout bien réfléchi, elle se dit que la discipline du couvent ne lui conviendrait pas du tout. Et puis, assez vite, elle va découvrir les écrits de Lamennais, un prêtre qui est à l'origine des courants socialistes, je dirais, ou antilibéraux du catholicisme. Et il sera excommunié parce qu'il dénonce la collusion de l'Église et des grands riches. Et elle va être tout à fait dans cette lignée de Lamennais, où elle parlera, quand elle parlera de Jésus, elle dira « Jésus des pauvres ». Le Jésus des pauvres. Et toute sa vie ensuite, quand elle parle de Jésus, elle dit « Jésus des pauvres ». Alors elle a gardé quelque chose de religieux, mais qui va être à mesure complètement déchristianisé. Et on peut dire que son amour de l'humanité et sa foi, son espérance dans l'humanité, peut être vécu comme quelque chose d'une spiritualité laïque. On dit qu'elle est laide, enfant. Elle est réputée être une fille laide. Une fille, non seulement elle n'est pas confortable, mais en plus on dit qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle parce qu'elle n'a pas le code du comportement du féminin. Elle ne l'a pas acquis, elle ne s'y est pas intéressée, on ne l'a pas contrainte à l'acquérir. Et voici qu'elle a entre 12 et 13 ans, et qu'un monsieur, un premier monsieur âgé, très âgé pour elle, entre 40 et 50 ans, un bourgeois des environs, vient trouver le grand-père et la demande en mariage. Parce que, bien sûr, sa filiation n'est pas très honorable, bien sûr, c'est une petite sauvageonne qui n'est pas très féminine, mais il se fait fort, et il explique au grand-père qu'il se fait fort de modeler ce jeune esprit de façon à en faire une épouse tout à fait convenable. Et le grand-père appelle Louise et lui dit « Tu vas répondre toi-même ». Et Louise aime beaucoup Molière et elle connaît bien l'école des femmes. Alors pour ceux qui ne l'ont plus en mémoire, l'école des femmes, je fais un petit rappel. C'est l'histoire d'un monsieur Arnolphe qui a mis à l'abri une jeune fille dont il est le tuteur afin de l'épouser quand l'âge sera venu, et d'épouser en quelque une fille absolument niaise, absolument pas prévenue des réalités de la vie, absolument pas capable de dire oui ou de dire non. Et cette jeune fille absolument niaise, il va pouvoir la modeler et en faire une épouse qui ne le trompera jamais. Si vous vous souvenez de Molière, vous imaginez bien qu'il n'a pas laissé faire ça et que la jeune fille, elle a rencontré un garçon et que, ma foi, le pauvre Arnolphe, il a fait un investissement à perte. Et notre Louise de 12-13 ans, eh bien, elle récite à cet homme l'école des femmes, qu'il ne connaît pas. Et il est complètement atterré et il s'en va. Mais quelque temps après, arrive un deuxième monsieur équivalent qui vient demander Louise en mariage au grand-père. Et Louise lui dit, « Regardez, monsieur, il y a des bois de serre, hein, comme il y avait dans les maisons à ce moment-là, accrochés au mur. Regardez les bois de ce serre. Eh bien, si jamais, par malheur, je devenais votre épouse, vos bois vous toucheraient le mur. » Et puis, elle continue, là, pour nous, dans ses mémoires, en disant, si on m'avait contraint à un tel mariage, je ne sais lequel serait passé par la fenêtre du bonhomme ou de moi-même. Elle n'a plus jamais reçu de demande en mariage. Elle avait quand même un grand-père qui était pas mal, hein. C'était quelque chose, hein. Mais il la connaissait aussi, sa petite Louise, hein. Il savait que c'était pas possible. Mais je crois que je vais vous lire un petit bout de poème qu'elle a écrit. Non, je vais le lire un peu plus loin. On a toujours envie de lire les poèmes de Louise Michel, hein. 1844, son grand-père meurt, elle a 14 ans. Donc à présent, la maisonnée, ben, elle est constituée par la grand-mère, par sa mère, Marianne, et par elle-même. 1848, elle a 18 ans. C'est une époque de grande insurrection en France, et pas qu'en France, dans beaucoup de villes européennes. Une insurrection non seulement qui touche Paris, mais Lyon, Strasbourg. Et cette insurrection qui est complètement violente, forte, donne naissance à la Deuxième République, qui ne durera pas longtemps, et qui va ensuite donner le jour, pas l'indirection, mais la contre la réaction, va donner le jour à Napoléon III, qui va s'introniser lui-même empereur, et Napoléon III, qui va régner jusqu'en 1870 en France. C'est donc une époque très intense. Elle est toujours dans son village à vivre avec sa grand-mère, mais elle en entend parler. Et elle bouillonne d'entendre ce qui se passe. Et puis, elle apprend que Victor Hugo, 51, Napoléon ne s'est pas encore proclamé empereur, que Victor Hugo est l'objet d'une répression énorme, il est en danger, il doit se sauver et il s'exile d'abord en passant par la Belgique et puis il va connaître à peu près 20 ans d'exil. Victor Hugo a dû fuir. Victor Hugo, son grand chantre, son père spirituel, a dû prendre la fuite, a dû se protéger en quittant la France. 52, Napoléon III, 51, 52, la répression par rapport à l'insurrection est extrêmement violente. Napoléon III est empereur. Il promeut un capitalisme extrêmement vigoureux. Notre grand poète en a parlé avec Mélancolia. Peut-être nombre d'entre vous connaissez ce poème, mais je vais vous en dire des passages. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous la meule. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre. Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant. Rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts et dans les cœurs la pensée. Victor Hugo, Mélancolia. Oui, Louise Michel les connaît, ces poèmes. Elle les lit, elle se les raconte, elle se les récite. Elle en écrit des très proches. Elle entend tout cela. Elle est en pleine formation. Mais elle vit encore à Vroncourt. Elle vit encore avec sa grand-mère. Elle n'a encore jamais quitté son village. Et puis, Laurent de Mailly, son père supposé, meurt. Bientôt, sa grand-mère meurt. Sa grand-mère meurt, c'est un déchirement pour elle, c'est sa dernière attache à ce qui fut son enfance. Elle écrit de très longues lettres, éperdues, où elle dit toute sa souffrance à Victor Hugo. Et Victor Hugo lui répond. Elle est tellement bouleversée, et puis en même temps, elle a peur de le surcharger, donc elle lui dit, ne gardez pas mes lettres. Mais heureusement pour nous, il les a gardées. 20 ans, la voilà en quelque sorte orpheline de tous côtés, sauf sa mère servante. Et c'est la Bru, la femme de Laurent, c'est la Bru qui est l'héritière. Elle vend le château et elle se bat et elle obtient que le nom de De Mailly soit retiré à Louise De Mailly Michel. Donc la petite Louise De Mailly Michel, ça y est, c'est du passé. À partir de maintenant, elle n'a plus une maison, elle s'appelle Louise Michel. Elle va gagner sa vie. Le grand-père de Mailly a pris soin d'elle et de sa mère. Il leur a laissé une rente et des quelques biens matériels, des arpents de terrain, une maisonnette. Et ça va lui permettre de s'inscrire pour faire une formation lui permettant d'être institutrice. Donc elle va à Chaumont. Elle prépare le brevet d'institutrice. Et c'est un très rude examen pour elle. Parce que tout ce qu'elle avait appris, eh bien, c'est pas dans les normes. Et son écriture est désordonnée, elle forme mal les lettres, elle a d'énormes lacunes. Elle commence par échouer, et puis elle s'acharne, et elle réussit. Elle a son brevet d'institutrice, et alors elle va ouvrir sa première école. Et toute sa vie, elle va, partout où elle sera, elle gagnera sa vie en ouvrant des écoles et en étant institutrice. Alors elle ouvre une école. On a le droit d'ouvrir une école quand il n'y a pas d'école dans le pays. Donc elle est dans un petit village de Haute-Marne et elle ouvre une école. Elle enseigne. Elle enseigne comme elle va enseigner toute sa vie, c'est-à-dire avec une passion énorme. Pour elle, les enfants, ce n'est pas des têtes qu'on remplit avec un entonnoir et puis qu'on bourre de connaissances. Les enfants expérimentent, cherchent, travaillent, creusent, essayent. Il paraît que ces classes, c'est un bazar pas possible. Il y en a de tous côtés. Il faut que les enfants essayent par eux-mêmes. Elle est une précurseuse de ce qui sera l'école Freinet plus tard en France. Hein? Et elle essaye, et puis elle ne fait pas que ça. Elle écrit. Alors un jour, elle est appelée par le préfet. Mademoiselle, vous avez écrit un feuilleton là dans le journal qui porte atteinte à notre empereur Napoléon III. Elle dit, comment ça ? Oui, vous faites un feuilleton sur un empereur romain, Domitien, qui était un tyran cruel et sanguinaire, et puis vous le menez jusqu'à sa mort, hein, il meurt assassiné, mais en lisant, on voit bien qu'il s'agit de Napoléon III. Elle dit, ah ben ceux qui voient Napoléon III, ils ont quand même un regard bien bizarrement tourné. Non, mais ça va. ne me racontez pas d'histoire, c'est tout à fait clair. Vous avez pris le prétexte de l'empereur Domitien pour parler de l'empereur Napoléon III. Mademoiselle, vous êtes jeune, mais j'en ai le pouvoir, je pourrais vous envoyer au bagne à Cayenne. Mais envoyez-moi au bagne. Je rêve de faire un tel voyage, je n'aurai jamais l'argent pour me payer le bateau. Envoyez-moi au bagne, là-bas j'ouvrirai une école pour les enfants de bagnard. Ça va, rentrez chez vous. Elle rentre, elle continue. Il y a une pauvreté, une vague de pauvreté énorme. Les gens ont faim, les gens tombent malades, non pas parce qu'il y a de la maladie, mais parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont dénutris. Elle écrit au préfet. Préfet, c'est la famine. Il faut que vous apportiez des secours. Vous ne pouvez pas laisser les gens vivre des choses pareilles. Et elle y va. Le préfet répond. Il envoie des secours. Et voici qu'un jour, elle a la visite d'un riche paysan du coin qui lui dit « Mademoiselle, j'ai une affaire et je voudrais bien que le préfet s'en occupe. Je sais que vous avez vos entrées chez le préfet. Faites-moi une lettre pour qu'il s'occupe de mon affaire. » Elle dit « Mais non, le préfet, quand il m'appelle, c'est juste pour me gronder, me disputer. Si je vous fais une lettre d'introduction, ça ne va pas du tout vous rendre service. Mais non, je sais bien. Faites-moi la lettre. » Alors, elle fait une petite lettre qu'on a et qui dit, voilà, il croit que ça va être utile que je vous le présente. Ma foi, faites comme vous voulez. Mais je vous en prie, n'oubliez pas mon billet pour Cayenne. Bon, voilà. C'était cette blagueuse, frondeuse, audacieuse. Alors, pour la petite histoire, sachez que quelques temps plus tard, elle a eu la visite de cet homme. Et ce bonhomme lui a dit, ben voyez, je savais bien que vous pouviez être utile. Le préfet a bien débrouillé mon affaire. Voilà. Elle est appelée aussi chez l'inspecteur d'éducation, qui est bienveillant avec elle, mais qui lui dit tout le temps, mais arrêtez, vous exagérez, mais arrêtez, vous avez fait chanter la Marseillaise dans vos classes. Or, normalement, dans des classes, il faut commencer par une prière en l'honneur de l'empereur. Elle fait chanter la Marseillaise. Mais arrêtez de faire des choses comme ça. Ça va finir par mal se passer. Voilà, mais non, elle n'arrête pas. Et puis, à un moment donné, la Haute-Marne, c'est trop petit, c'est trop serré. Elle va aller s'installer à Paris avec des amis. Elles sont plusieurs. Elles ouvrent une école dans le quartier de Montmartre, qui est un des quartiers populeux les plus pauvres de Paris. Elle a rapidement à peu près 200 élèves. Elles sont une dizaine d'amis, de copines qui sont institutrices et qui s'occupent de ces enfants. Et ces enfants sont souffrants, ils sont dénutris, ils sont malades. Alors ça n'attend pas. Elle écrit au maire. Le maire, c'est le jeune Clémenceau, maire de Montmartre. Elle lui dit, il y a des enfants malades dans ma classe, il faut envoyer un médecin, il y a des enfants qui ont faim, il faut leur apporter à manger, il faut faire ci, il faut... Et Clémenceau, le maire, il n'a pas l'habitude qu'on l'interpelle comme ça, et il se déplace, et il va visiter cette école, et il est complètement stupéfait par l'énergie qui se dégage là de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui sont là en train d'enseigner avec toute leur passion, qui transmettent tous les savoirs possibles et puis qui prennent soin des enfants en quelque sorte dans leur totalité d'être humain. Et il fait envoyer des médecins et il fait envoyer des secours. Et à partir de ce moment-là, eh bien Clémenceau, qui ne sera jamais un militant révolutionnaire, anarchiste ou communiste, hein, Clémenceau va avoir une relation, je dirais, de respect à l'égard de Louise Michel qui va durer toute sa vie. Et quand elle sera déportée et condamnée à la déportation à vie en Nouvelle-Calédonie, il lui enverra des secours, il lui enverra des livres et il se battra pour qu'elle soit graciée ou amnistiée. Elle l'a impressionnée. Mais ça va arriver plusieurs fois, hein, que Louise Michel va impressionner les gens par sa détermination et par sa clarté d'esprit. Et puis ces jeunes institutrices, elles sont avides de connaissances. Dès qu'elles ont fini leur travail, elles vont suivre des cours. Il y a des sortes d'universités populaires. Et il y a des cours sur Darwin. Il y a des cours d'astronomie avec Flammarion. Il y a des cours de botanique. Il y a des cours de médecine. Elles vont partout. Elles attrapent tous les savoirs possibles. Elles sont avides. Elles vont à des cours politiques de Blanqui. Elles n'arrêtent pas. Elles sont infatigables. Elles rentrent dans la nuit. Et parfois, Louise Michel, sachant qu'elle va rentrer la nuit, qu'elle va être seule, eh bien, elle s'habille en homme pour pas être embêtée. Et puis un jour qu'elle est habillée avec sa robe, les femmes ne s'habillent pas en homme, hein, absolument pas. Et une fois qu'elle est habillée en femme et qu'elle est suivie dans la nuit par un espèce de grand gars qui la suit, puis ça commence à être inquiétant, eh bien, elle se retourne, elle lui crie « ABEFG !» Elle lui crie des lettres de l'alphabet. Très fort. Il a été complètement saisi et il est parti. Voilà, bon. Ça ne veut pas dire qu'en self-défense, c'est suffisant, mais là, ça a été suffisant. Et je pense qu'elle avait une voix très forte et qu'il a senti qu'il avait quelqu'un d'extrêmement déterminé. Elle aime les sciences. Elle dira d'eux, « Allez, chasseurs de l'inconnu !» Carrément, hein, c'est pas les sciences, c'est bien, la fabrique à science, les jeunes, écoutez. Non, c'est allez, chasseurs de l'inconnu. C'est toujours comme ça, on y va. Hein. Là, c'est une période où elle se sépare complètement de la religion officielle, qui pour elle, c'est clair, prêche la résignation et la soumission. Elle est complètement aux côtés de penseurs de type Lamennais, le Christ des pauvres. Ce sont les pauvres, sa religion. En 1862, paraissent Les Misérables de Victor Hugo, puisque depuis son exil, il écrit beaucoup et il est publié. Hein. À partir de ce moment-là, elle signe un certain nombre de ses écrits. Enjolras, un militant révolutionnaire des Misérables. Ça lui arrive aussi de signer Louis Michel, et non pas Louise Michel, parce qu'elle a remarqué que quand elle signait avec un prénom masculin, ses articles étaient plus facilement acceptés. Et puis va arriver La Commune, 1871. Je ne vais pas vous raconter La Commune. Je ne vais pas vous raconter La Commune parce que ce serait l'objet de toute une conférence en soi. Mais elle était une des figures, parmi beaucoup d'autres figures, de grandes combattantes de La Commune.